je disais que j'étais un écrivain qui faisait du cinéma, après un cinéaste qui écrivait. Puis maintenant, c'est vrai que les plateaux à l'opéra ou au théâtre prennent de plus en plus de temps dans mon année. Donc, je sais plus trop ce que je fais, en fait. Mais c'est bien, je trouve, de pas trop savoir ce qu'on fait. Je trouve que d'être incertain, en fait, sur son statut est peut-être pas le pire des moyens d'arriver à sentir un peu le contemporain, enfin ce qu'il y a de contemporain dans l'expression artistique. Le fait comme ça de voyager, finalement d'être pas un pur cinéaste, pas un pur écrivain, pas un pur metteur en scène, ça m'a angoissé pendant longtemps, parce que j'avais l'impression d'être un imposteur partout.
Le grand atelier.
Et maintenant ça m'angoisse plus trop, au contraire je me dis que c'est peut-être ma petite identité.
Sur France Inter.
Quand il avait une vingtaine d'années et qu'il écrivait des livres de jeunesse et des romans, L'infamie, La douceur, vous deviniez qu'il n'allait pas en rester là. À l'époque, il disait d'une voix douce mais assurée, pourquoi ne pas tout essayer, des romans, des films. Pasolini l'a fait, Cocteau aussi, mélange attachant d'arrogance et de détermination, expression d'un pluriel de désir. La vie lui a donné raison, il s'épanouit dans plusieurs domaines artistiques en revendiquant l'imperfection et même l'impureté. Un peu metteur en scène, un peu écrivain, beaucoup cinéaste, comme si ses pas, ici et là, devaient le conduire vers un meilleur possible. Aujourd'hui, il prépare un nouveau film et promène en France sa nouvelle pièce, Les Idoles, hommage à ses pères, artistes et auteur qu'il n'a pas rencontré parce que le sida les a fauchés, ceux à qui sans doute il aurait aimé parler, leur dire au moins bravo et merci, Jacques Demy, Hervé Guibert et quelques autres. Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
C'est vrai que vous aimez ce mot, l'impureté.
Parce que c'est quelque chose qui appartient à mon époque en fait aussi, tout simplement. En tout cas, où je, on peut alors voilà qu'on l'appelle l'impureté, l'inachèvement. En tout cas, cette idée à un moment de pas prétendre être dans la maîtrise absolue. Je trouve que la maîtrise aujourd'hui, en tout cas dans la création, est souvent synonyme d'un pouvoir qui, moi, m'embarrasse beaucoup, que ce soit d'ailleurs en tant que spectateur, lecteur ou du coup en tant qu'artiste.
On vous a longtemps appelé le jeune cinéaste, Christophe Honoré. Vous préférez le jeune au grand cinéaste, alors ?
Je pense que... Non, il y a un moment, il faut admettre qu'on n'est plus le jeune cinéaste. Mais vous avez raison, en tout cas, sur cette idée du jeune cinéaste, c'était quand même une forme de déconsidération. Alors après, c'est toujours un peu étrange, parce qu'au cinéma, vous êtes jeune cinéaste jusqu'à 40, 45 ans, quand même. Donc, ça correspond pas du tout à ce que vous vivez dans la vie, où les gens vous regardent quand même déjà comme un adulte assez accompli.
Bienvenue en tout cas dans le Grand Atelier, 2 heures avec vous et vos invités, ils sont déjà là. Il y en a 2 déjà autour de vous, Denis Podalydès, comédien, metteur en scène, écrivain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociétaire de la Comédie Française, vous avez joué dans le dernier film de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite. À vos côtés, il y a Colette Fellous, bonjour.
Bonjour.
Écrivaine, un livre en ce moment sur Camille Claudel, vous avez longtemps travaillé comme productrice à France Culture et vous êtes directrice de collection au Mercure de France. C'est vous qui avez proposé à Christophe Honoré d'écrire Ton père, paru l'année dernière. On ira aussi à Lausanne, Christophe Honoré, suivre votre troupe, celle qui joue actuellement Les Idoles. Vous l'avez créée en Suisse, à Vidy-Lausanne, face au lac. Je me souviens que les acteurs pouvaient se baigner entre 2 répétitions. Et on commence votre grand atelier en musique avec une chanson que vous souhaitiez entendre, un tube de Kim Wilde, Cambodia. C'est le début des années 80. Pourquoi ?
Parce que c'est un des premiers 45 tours en fait que j'ai vraiment acheté quand j'avais, je crois, j'étais en 6e, donc j'avais 11 ans. Et je l'ai réutilisé d'ailleurs dans un film qui s'appelait Dans Paris. C'était Romain Duris qui essayait comme ça de chanter par-dessus cette chanson. Et du coup, c'est pour essayer d'être fidèle au collégien que j'étais.
Next night.
Ah, ça rappelle des souvenirs. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, Denis Podalydès ? Vous avez dansé sur Kim Wilde ?
Moi, je dansais très peu, très timidement, et quand j'étais un tout petit peu ivre. Donc, j'ai dû, sûrement.
Boire, quand on est entre amis, un peu déprimé, danser aussi. C'est une scène qui existe dans votre dernier film, Christophe Honoré, Plaire, Aimer et Courir Vite. Cette fameuse scène entre Vincent Lacoste, Pierre de La Donchon et Denis Podalydès. Justement, ils sont dans cet état-là, et d'autant plus que l'un des personnages va mourir, il est atteint du sida, et il va choisir de mettre fin à sa vie. Et donc, ils sont là un peu pour la dernière fois. Ils oublient ça, ils sont dans le moment, ils sont dans l'instant, et ça donne ça.
Ouais. Trop vite, là.
On est pas parti du tout, on est très mal parti.
c'est pas mal.
Et si même le professeur connaît pas la chanson.
La boîte.
La poudre.
Celle-là.
Là.
Ah, là, c'est moi devant.
Oh, toi.
Ah, c'est pas vrai, ça.
Ah, tu repasses devant.
Ah, le rire, c'est pas possible. Hein.
Hop, et là.
C'est là.
Ah, là, c'est le moment du tango.
Derrière. Là.
Oh, devant,
hop, côté.
Oui, oui.
Ah, j'ai oublié le twist.
Le twist.
Oh là là, mais on est bourré avec ce chat.
Viens par là, toi.
Et là.
Ha. Tac.
Tac.
On est vraiment avec eux, Christophe Honoré, c'est ce que vous souhaitiez. Comment vous avez réussi ça ?
Alors déjà, je les ai fait s'entraîner, en fait, parce qu'il fallait apprendre la chorégraphie. Ça venait du bal moderne, vous savez, à l'époque, en fait, à Chaillot. Il y avait eu comme ça plusieurs chorégraphes contemporains, en fait, qui apprenaient à tous les gens qui se présentaient des espèces de chorégraphies pour réinventer un bal moderne. Et donc, j'ai voulu d'abord que Denis, Pierre et Vincent apprennent cette chorégraphie. Donc, on l'a fait en amont du tournage. Et après, c'est une des rares scènes improvisées du film. C'est-à-dire que toutes les répliques, en fait, viennent d'eux.
Quand vous dites à Vincent Lacoste, ah, ton rire.
Ah bah, c'est le rire de Vincent. C'est une chose absolument magnifique parce que c'est immédiatement drôle et c'est très, très touchant. Il y avait dans cette soirée de tournage ou cet après-midi, je sais plus, quelque chose de si léger, joyeux, bienveillant, très bien maîtrisé en même temps pour que tout soit capté parce que il faut, au point de vue du son, au point de vue de l'image, pouvoir recueillir tout ça. Ce qui fait qu'on se sentait porté. C'était très, très joyeux, très émouvant aussi.
Vincent Lacoste est un étudiant breton, comme vous l'avez été, Christophe Honoré. Il tombe amoureux d'un écrivain parisien qui va mourir du sida, qui est tout à fait conscient de son état. Et puis, Denis Podalydès est un peu l'équivalent du critique des années 80-90, Serge Danet, qui a travaillé à Libération, qui a fondé la revue Trafic. Vous avez pensé immédiatement à Podalydès pour incarner ce personnage qui ressemble à Serge Danet, l'une de vos idoles ?
Ah non, pas du tout immédiatement.
Non.
C'est le dernier. C'est arrivé très tard, c'est parce que...
C'est assez étonnant justement comment des fois ça se passe sur les castings, parce que déjà ça devait pas être Pierre de La Donchon non plus. J'imaginais des âges différents en fait pour ces rôles, et c'est vraiment en cours de préparation au fur et à mesure. C'est une harmonie quand même les acteurs, donc vous en trouvez un et puis après vous dites ah ce serait bien que pour lui répondre il y ait quelqu'un comme lui, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai fini par arriver et aller proposer en fait à Denis de venir nous rejoindre. Je savais que ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui, parce que deux de mes films, je pense, préférés, c'est Comment je me suis disputé et Dieu seul me voit, et que dans les deux, Denis a une part importante, en fait, du plaisir et de l'attachement que j'ai à ces deux films. Et puis après, faut trouver le bon moment. Et puis, bon, alors le problème du bon moment aussi avec Denis, c'est qu'il faut trouver le moment où lui-même est disponible. Et là, on a eu de la chance. Ça s'est fait sur un temps assez court. Il nous a rejoint effectivement plutôt en fin de tournage. Nous, on se connaissait pas du tout. On s'était jamais croisés. Vous rencontrez quelqu'un une ou deux fois dans un café, et puis il arrive sur le plateau, et puis il faut qu'il se passe quelque chose. Donc c'est toujours quand même des paris qui inquiètent. Ça inquiète énormément les acteurs, évidemment. Donc c'est toujours très important de les mettre en confiance, d'essayer de créer comme ça une espèce d'atmosphère la plus bienveillante possible. Et puis, mais c'est aussi très inquiet. Enfin, on est soi-même aussi très soucieux en tant que metteur en scène. On fait en sorte de sourire, de dire « Ah, formidable !»
Et on est mort de trac ?
Ben, on a peur pour eux. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours peur pour eux. J'ai toujours peur qu'un acteur se sente mal à l'aise sur un plateau ou ait mal interprété une remarque qui a été faite, mais que ce soit une de mes remarques ou une remarque d'un chef-op, etc. Donc, c'est vrai que je consacre énormément de mon temps de mise en scène, en fait, à essayer de faire en sorte que les acteurs soient aux petits oignons. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement.
Créer un climat sur un plateau. J'ai été très frappé de ça, du climat, à la fois de travail, et de bon entente, de bienveillance, de délicatesse, effectivement, qui faisait qu'on se sentait pas du tout sur la sellette, ou « Allez, maintenant, il faut y aller, les gars, on sort la selle !»«
Faut tout donner !»«
Faut tout donner, là !» Non, ça naissait assez spontanément. Aussi, je pense, la qualité du dialogue, il fait pour beaucoup, c'est souvent les dialogues, parfois, au cinéma, sont mal écrits, quoi, tout simplement. Et là, il y a un vrai style, un échange de répliques, un dialogue qui crée aussi, qui suscite immédiatement un ton, une atmosphère, qui crée la relation.
Vous sauriez parler du style de Christophe Honoré, c'est possible ?
Ah, c'est difficile, ça. C'est-à-dire qu'il y a une écriture qui est extrêmement tenue, qui fait penser à de l'écriture... faut pas l'entendre péjorativement, l'écriture de théâtre, au sens où le dialogue est souvent extrêmement travaillé, vous avez le sentiment de la nécessité des répliques, qui n'empêchent ni leur légèreté, ni leur humour, ni leur vie, mais vous avez le sentiment d'un enchaînement absolument pensé. Et dès la première scène du film, il y a une longue scène comme ça qui accompagne Pierre et son jeune amant, et c'est une scène qui fait penser à des scènes, des grandes scènes du théâtre, de Marivaux, de Musset, jusqu'à Romère, où l'écriture de bout en bout est menée, et où la littérature est là aussi.
Longtemps, Christophe Honoré a dit, il le dit moins maintenant, je suis un écrivain de cinéma.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en tant que cinéaste, je me sentais comme un écrivain raté, que je faisais des films d'écrivains ratés. Ce qui est quand même très différent.
Il est modeste. Il est modeste.
Non, mais en plus, c'est vrai que ce film-là, Denis a raison, moi, ça m'a un peu libéré. Parce que justement, en fait, quand vous, au moment de l'écriture, moi, des scénarios, j'adore écrire vraiment des scénarios parce que c'est un moment joyeux.
Alors vous avez d'ailleurs écrit pas mal de scénarios avant de réaliser un long métrage.
Hein. Voilà, et puis pour d'autres gens, etc. Je trouve que c'est une écriture qui est jamais solennelle, en fait. Mais souvent, je me restreignais un petit peu parce qu'à un moment, on me disait justement, ah, tes scénarios, ils sont trop théâtraux, ou ils sont trop littéraires. Enfin, vous voyez, dans les commissions, etc. On vous dit, ah, mais oui, mais ces personnages n'existent pas. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Et c'est très, très dur d'imposer, par exemple, tout simplement l'idée que dans un film, les personnages partagent une langue commune. La plupart du temps, on estime que bah, le personnage qui est journaliste, il doit pas parler de la même façon que le personnage qui est boulanger dans le film, ou voilà. Et donc, il y a toujours comme ça un rapport sociologique au dialogue, alors que moi, j'aime bien cette idée qu'au contraire, un film, c'est un territoire de langue, et que c'est avant tout inventer une langue commune à des personnages, exactement pareil comme au théâtre.
Denis,
tout à fait. Je crois que c'est ça, c'est cette langue commune. Et c'est ça qui fait qu'on a le sentiment de jouer ensemble aussi.
Allez, mon Mathieu, je te laisse. T'as mes clés, hein?
Reste encore un peu.
On va s'attendrir et tu vas finir par me ligoter.
Je me suis préparé depuis un moment, tu sais. Je me doutais que ça finirait comme ça.
Demain matin, t'es pas obligé de descendre tout seul, hein? T'appelles les pompiers et tu peux même dire que t'as pas la clé, ils défoncent la porte.
Donc je serai là, t'inquiète pas.
Ben, je suis pas inquiet, je suis très fatigué. Je peux pas m'en vouloir, hein?
Je te juge pas.
Toi, non, je sais. Les autres. Mes parents, les premiers. Mon connard d'éditeur. Remarque, je les emmerde tous. J'espère sincèrement que ça va leur exploser la gueule.
T'as pas besoin de te mettre en colère.
Non, je sais. Mais bon, je dois avouer que dissimuler mes rancunes est devenue une entreprise au-delà de mes moyens.
Tu vois, t'es plus vivant que tu crois.
En fait, ça m'émeut beaucoup de les réécouter tous les deux, parce que c'était un moment dont Denis avait peur, et c'est quand même assez rare quand un acteur comme Denis vient vous dire, tu sais, cette scène-là, moi, je sais pas, l'émotion, etc., ça me fait peur, je te rappelle, on était...
Oui, bien sûr.
Et je lui dis, non, mais t'inquiète pas, on va pas faire beaucoup de plans, on va le faire très tranquillement. Et c'est des moments où, en tant que cinéaste, sur le plateau, c'est Truffaut qui dit ça, mais vous voyez vraiment que soudain les acteurs sont à un niveau, mais tellement supérieur à ce que vous avez écrit, que vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est justement avoir à un moment la délicatesse de dire « on ne va pas refaire une prise ». On a dû commencer en fait sur un plan sur Pia, puis après on a fait sur toi et on a dû faire une prise, peut-être deux, mais je ne suis même pas sûr qu'on avait fait la deuxième.
Oui, c'est rare ça.
Là, quand on les entend, c'est fou parce que même à la radio, souvent, c'est quand même assez terrible d'entendre des extraits de films.
Ah, ça, moi je trouve que c'est bien le cinéma à la radio.
Et là, en fait, il y a une force de personnages, de fiction, Alors, c'est évidemment Denis, mais c'est aussi Pierre qui, dans cette scène, est quand même un peu insensé, moi, je trouve. Et qui fait que cette scène m'émeut toujours, en fait.
Vous aussi,
quand je suis
dans
des projections, je la trouve très, très forte.
Pierre m'a bouleversé.
Oui.
Et j'ai été submergé d'émotions, tout simplement. Alors que ça, au cinéma, curieusement, je fais partie de ces acteurs qui ne savent pas pleurer, qui ont, pendant des années, eu honte de ça. Je ne suis qu'un morceau de bois sec. Je n'arrive pas à pleurer, qui joue avec des partenaires qui, eux, les larmes coulent, etc. Et donc, moi, je me cachais. Je me rappelle, jeune acteur, je m'exorbitais les yeux pour essayer de les humecter. Et donc, toutes les répliques qui précédaient le moment prévu d'émotion, je ne sciais surtout pas. Et bon, ça donnait des résultats catastrophiques. Et là, il y a quelque chose dans le regard de Pierre, dans sa voix, dans tout lui-même, plus le moment, comment Christophe et toute l'équipe l'avaient amené aussi.
On voit la larme arriver dans ton œil, et on voit en fait le personnage qui lutte pour surtout pas pleurer tant que Pierre est dans la pièce. Là, il y a quelque chose entre acteurs, en fait, où la caméra soudain capte vraiment quelque chose de réel. Et c'est assez beau, du coup, parce que le réel des deux acteurs est plus fort que tout ce qu'on a préparé.
Il faut que je vous laisse partir, Denis Podalydès, parce que vous avez rendez-vous avec une habilleuse de la Comédie Française.
Ben oui, il faut que j'aille. À bientôt.
À bientôt, Denis Podalydès. On va écouter une musique que vous avez utilisée, Ils s'embrassent, que vous avez utilisée, Christophe Honoré, dans Plaire, aimer et courir vite. C'est Cocteau Twins, ce groupe britannique des années 90.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Cocteau Twins, I Wear Your Ring. Ça fait partie du film Plaire, aimer et courir vite, ça, Christophe Honoré?
Tout à fait. C'est une scène de petit matin après l'amour entre Pierre de La Donchamp et Vincent Lacoste.
Alors, ce qui est bien avec un artiste impur, pour reprendre l'adjectif qu'il affectionne, Christophe Honoré, c'est qu'on peut aussi parler de théâtre après avoir parlé de cinéma. On parlera dans un instant de littérature avec Colette Felous. Le théâtre entre quand et comment dans votre vie?
En fait, il rentre à la mort de mon père. J'avais 15 ans et avec mon frère, j'ai un frère aîné. Je sais pas pourquoi, il y a un moment, ce chagrin, on va dire, familial, on a créé une troupe qui s'appelait le Théâtre du Zénith dans notre petit village à Rostrena, en Bretagne. Et voilà, on a vraiment créé cette troupe et on a monté, je crois, la première pièce qu'on a montée, c'était Du vent dans les branches de sassafras. Je me souviens que l'année d'après, lui, il voulait monter Le Père Noël est une ordure. J'avais dit ok, mais moi, je voulais faire la musicade Duras. Donc, je jouais à 16 ans la musicade Duras en mettant du talc dans mes cheveux. C'était pitoyable parce qu'on jouait ça, évidemment, dans la salle des fêtes de Rostrena. Et puis, bah, pour les gens, c'était assez terrible de me voir jouer la musica. Ça ennuyait quand même un peu tout le monde. Et par contre, Le Père Noël est une ordure, ça plaisait beaucoup aux gens. Donc, je me souviens qu'après, quand ils allaient voir ma mère, ils disaient « Ah, c'est super, Laurent, il fait des trucs. » Christophe, bon, vous avez pas de chance, quoi. Voilà. Et donc, j'ai continué après à faire un peu du théâtre à la fac. Et quand à l'école des loisirs, après bien des années plus tard, j'ai écrit une première pièce de théâtre qui s'appelait « Les débutantes ». Du coup, j'ai toujours régulièrement d'abord écrit du théâtre et quand j'en ai eu l'opportunité, mis en scène.
Eh ben, le théâtre, c'est aussi votre actualité en ce moment, puisque on va voir au Théâtre de l'Odéon à Paris Les Idoles. La pièce a bien tourné avant. Il y a des acteurs et des actrices qui incarnent des auteurs, des metteurs en scène morts du sida qui ont compté pour vous. Serge Danet, le critique, on en a parlé. Hervé Guibert, Cyril Collard, le dramaturge Jean-Luc Lagarce, Jacques Demy, Bernard-Marie Coltès, avec des acteurs qui sont Marina Foïs, Marlène Saldana, Julien Honoré, Youssouf Abiyayad, Harrison Arevalo et Jean-Charles Cliché. J'ai eu la chance de suivre des répétitions avec vous tous, en Suisse. C'était une après-midi de septembre dernier. Début de répétition. Théâtre Vivi, Lausanne. Les comédiens sont en habit de tous les jours et ils montent sur scène, Christophe Honoré sur le plateau.
Ok, on se met en place. Petit moment de gêne, tension sexuelle. Et là, tu l'embrasses. Là, t'embrasses de Travolta, tu lui roules une bonne grosse pelle.
La vraie question, ça a été pour moi, où est-ce que je fais revivre ces morts? Puisque c'est quand même le principe de cette pièce, c'est de croire à un moment, enfin, en la capacité du théâtre pour rendre la vie à des gens qui ont disparu. C'est des gens qui ont compté énormément dans mon désir et dans ma conviction qu'à un moment, j'arriverais à faire du cinéma ou j'arriverais à écrire et que j'allais monter à Paris et que peut-être les choses allaient se faire. Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, c'est un peu les seules personnes à qui j'aurais eu envie d'envoyer mon premier livre, que j'aurais eu envie d'inviter, en fait, à la première projection d'un de mes films. Et ils étaient pas là. Donc, j'ai jamais pu avoir cet échange qui aurait été certainement, d'ailleurs, un échange très banal, parce qu'en général, les gens que vous admirez, à part dire bonjour, je suis content que vous soyez là, c'est très, très rare, finalement, qu'il se passe autre chose.
Beaucoup de spectateurs vont découvrir Hervé Guibert. Un trentenaire, aujourd'hui, sait pas qui est Hervé Guibert. Vont découvrir le critique Serge Danet.
Oui, c'est un des enjeux importants de ce genre de spectacle, c'est surtout d'éviter l'entre-soi. C'est-à-dire que même si forcément... C'est drôle parce que Julien, mon petit frère, la première phrase du spectacle, c'est « Je m'appelle Jean-Luc Lagarce et je voudrais vous parler de Renaud Camus ». Et il me dit là, pour quelqu'un de 15 ans, déjà, il peut être perdu. Il peut dire « Mais je croyais que Camus s'appelait Albert
». Alors on précise que Lagarce était un auteur de théâtre fauché par le sida, qui est toujours joué énormément dans le monde entier aujourd'hui. Et puis Renaud Camus, un écrivain et qui est devenu un homme d'extrême droite.
Oui, qui est devenu un auteur justement infréquentable et qui était l'idole. Pour le coup de Jean-Luc Lagarce, c'est l'écrivain qu'il cite le plus dans son journal. Et donc, ce qui est important pour moi, j'arrête pas de dire ça aux acteurs, c'est qu'il faut absolument que la connaissance sur le plateau, ils en soient toujours au même niveau que la connaissance dans la salle.
Vous vous servez d'une base, d'un matériau qui est par exemple des textes de Guibert, et puis ensuite vous demandez sur le plateau à vos comédiens d'improviser à partir de cette base, et puis en rentrant chez vous, vous écrivez, c'est-à-dire que vous faites une écriture de plateau.
Oui, et j'aime bien cette idée que à la fin de cette pièce, on sache pas très bien si l'auteur, c'est les auteurs qui sont sur scène, c'est les comédiens ou c'est moi-même. Faut s'affranchir absolument du biopic qui peut exister justement au cinéma, etc. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, j'ai demandé à Marina Foïs de jouer Hervé Guibert ou à Marlène Saldana de jouer Jacques Demy. C'est-à-dire on s'affranchit carrément du genre.
Pas de ressemblance, pas de maquillage.
Voilà, et pour bien montrer que ces idoles-là, de toute façon, des idoles, c'est jamais la vérité, c'est la légende. Donc je fantasme ces gens.
C'est très différent du cinéma, le théâtre. Je vous pose une question qu'on a posée mille fois à des cinéastes qui sont devenus metteurs en scène de théâtre ou l'inverse.
Ça a tellement rien à voir, en fait. Moi, ce que j'aime au théâtre, c'est que j'ai pas l'impression d'être tout seul. Je sais que ce spectacle, il doit tellement, en fait, aux comédiens et que du coup, j'ai vraiment l'impression de... Moi, j'ai toujours un petit peu cette frustration du groupe. Alors qu'au cinéma, les gens pensent toujours que le cinéma, ça se fait à plusieurs. Alors, Dieu sait s'il y a bien une activité qui se fait en solitaire, c'est le cinéma. En tant que metteur en scène, en tout cas, vous êtes bien seul et de plus en plus seul, je pense. Vous avez besoin d'énormément de collaborateurs techniques autour de vous, etc. Mais même dans le travail avec les acteurs, vous êtes tout seul, en fait, parce qu'après, au montage, vous choisissez, etc. Le cinéma, je pense, c'est un art très, très solitaire.
Marina, allez, on y va.
J'ai la faim ?
Ouais.
Je ne suis pas heureux d'être malade, je ne suis pas heureux d'avoir le sida, mais si ça peut aider d'autres gens, alors je suis heureux que mon propre malheur serve à quelque chose. Merci, Elisabeth.
Ce dernier mot des Rocketsons, c'est Burt Lancaster qui les a lus. Au gala organisé par Liz Taylor pour récolter des fonds pour la lutte contre le sida.
On sort du plateau, on sort de la salle pour une pause. Il y a du soleil à Lausanne. Marina Foïs.
Oui, bonjour.
Alors, je vous ai vu en répétition, vous êtes Hervé Guibert.
Oui.
Comment vous avez accueilli la proposition de Christophe Honoré
j'ai
de jouer
Guibert? En vrai, j'ai dit oui avant la fin de la phrase. Et en plus, je devais faire un film à la même période. Et j'ai suggéré qu'on décale le film parce que je voulais le faire.
Vous jouez Guibert en même temps. Je ne cherchais pas les mots de Guibert. Je vous voyais être un personnage sur scène, mais qui était presque au-delà de Guibert. C'est-à-dire que je cherchais pas une vérité absolue.
Il y a un truc qui est injouable. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas pédé. Surtout, je ne suis pas malade. Donc l'idée, c'est de donner une image ou une idée d'eux. Puis surtout, moi, je pense que quand même majoritairement, je dis du texte de Guibert, donc je pense que si ça parvient, c'est l'essentiel.
Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous travaillez avec Christophe Honoré et Marina Foïs là au théâtre, même si vous avez déjà travaillé avec lui au cinéma. Comment ils travaillent ? Ça se passe comment ?
En fait, il y avait un travail de lecture un peu transversal à faire, et puis après sur le plateau, en effet, c'est sûr, ils donnent des thèmes. Et c'était à nous d'improviser enfin de manière très libre et bordélique. En même temps, il fait semblant de pas savoir où il va, mais je pense qu'il sait très bien ce qu'il veut et ce qu'il attend.
Qu'est-ce que vous faites comme impro ? Qu'est-ce qu'il vous demande comme impro ?
Par exemple, sur le thème de l'aveu, comment ces gens-là ont avoué ou ont dit, parce que avouer c'est un peu un
révéler.
Merci. Mais on appelle ça l'aveu beaucoup. Ça, ouais. C'est un terme un peu judiciaire. Donc sur ce thème-là, il nous avait demandé un peu de s'inspirer de ce qu'on avait pu lire ici ou là dans les œuvres de chacun et d'imaginer comment il le racontait. Puis on a fait des impros. Et puis par exemple, moi sur l'aveu, j'avais fait une impro qui était à peu près fidèle à l'idée de Guibert. Et puis je suis retombée sur un passage de Alami qui ne m'a pas sauvé la vie et que les mots de Guibert sont évidemment plus forts que tout ce qu'on peut improviser. Donc du coup, ça devient, ce moment-là, devient un extrait de Alami qui ne m'a pas sauvé la vie.
C'est vrai parce que les personnages incarnés par les comédiens que vous êtes s'interpellent. Disent par exemple à Demi, dis donc, t'aurais pu dire que t'avais le sida, alors que Demi ne l'a jamais dit. On l'a su des années après par Agnès Varda.
Oui. Et puis après, sur ce spectacle-là, moi je dois avouer que le thème du spectacle me passionne et m'intéresse beaucoup. Je pourrais. Enfin, pour moi, il pourrait y avoir 6 heures de spectacle parce que c'est une histoire qui a été la nôtre, par exemple Honoré et moi, qui n'est pas du tout celle de toute la district parce que c'est nous qui sommes les plus vieux.
L'histoire étant d'avoir perdu des idoles, c'est-à-dire d'avoir connu des artistes
ou des amis,
et des proches qui sont morts
en fait,
du sida.
D'avoir vécu les années 90, quoi. Et ce qui était une histoire personnelle est devenu une histoire avec un grand H, parce que c'est une époque qui, Dieu merci, est révolue. Et c'est intéressant parce que on a sûrement oublié, ou les gens ignorent sûrement que ce que la maladie avait d'excluant, d'humiliant, la honte, moi ça m'intéresse.
Vous êtes la seule à ne pas être partie répéter,
vous
laisse.
Oui, mais c'est vrai que je joue mieux que les autres, donc j'ai moins besoin de travailler.
Moi, je crois que vous avez tous joué le jeu de l'épidémie en justifiant l'existence du sida comme un truc tombé du ciel, envoyé par la fatalité pour parachever votre devenir artiste. Surtout vous, Guibert et Collard, vous avez donné au public ce qu'il attendait, non pas des séropositifs combattants, revendicatifs et coléreux, mais des créateurs convaincus de l'utilité de leur maladie et prêts à se poser en figure sacrificielle.
Je peux vous demander qui vous êtes ?
Oui, je suis Marlène Saldana.
Vous jouez quoi, là ?
Je joue Jacques Demy.
Et c'est bon ?
Ouais, c'est super.
Pourquoi ?
Parce que Jacques Demy, évidemment, tout de suite, on pense aux comédies musicales, à l'univers plus à la fois joyeux et mélancolique, aux couleurs, Et puis c'est le seul des personnages, peut-être à part Coltès, de la pièce, qui a jamais fait œuvre du fait d'être malade du sida, voire même d'être homosexuel. Donc c'est vraiment quelque chose de caché, etc. Donc il y a beaucoup, on parle beaucoup de ça dans la pièce. Et c'est intéressant à travailler. Comment on le dit, qu'on est malade, comment on le dit pas, comment on vit avec ça, etc., etc. Puis aussi, on s'est beaucoup, évidemment, inspiré de ses films, aussi des documentaires d'Agnès Varda sur Demi. Et je crois que Christophe voulait pas vraiment travailler sur l'histoire officielle de Jacques Demi. Donc il a fallu inventer beaucoup de choses. Donc c'est absolument une fiction. Ce n'est que ces personnes-là à travers le regard de Christophe. Quand Christophe m'a parlé de son projet, la première chose qui m'a intéressée, c'est pas tant les gens, Jacques Demy, Lagarce, tout ça, c'est plus de se dire que cette maladie a quand même fait un trou dans l'art incroyable. Si ces gens-là n'étaient pas morts, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? L'art aurait pas du tout été le même, je crois, aujourd'hui. S'il y avait encore... Alors Jacques Demy, c'est différent... Enfin, différent, non, qu'est-ce que je dis ? Il est mort âgé, entre guillemets, il avait 69 ans, mais les autres... Collard, Guibert, etc. Enfin, c'est... Moi, c'est ça, en fait, que je trouvais le plus passionnant.
C'est la deuxième fois que vous travaillez avec Christophe Honoré, donc vous commencez à connaître le metteur en scène de théâtre. C'est quoi de travailler avec lui sur un plateau ?
Déjà, on rit beaucoup. Dans les impros, évidemment, ça vire très souvent à la rigolade. Et Christophe, il est très client de ça. On ne croirait pas, mais il aime beaucoup, beaucoup ça. On s'amuse beaucoup, parce que ce n'est pas du tout morbide. Et ce n'est pas une messe. Du tout.
Vous pouvez éteindre, s'il vous plaît. Allez, mettez-vous en place. Faites juste attention à un truc. Marina, Julien, Jean-Charles, bon là, non. Vous avez vraiment tendance à avoir très, très souvent les mains dans les poches. Allez, on y va.
Avec Christophe, on rit.
J'ai honte de moi quand je m'entends. La seule chose que j'ai à leur dire, c'est pas mettre les mains dans les poches. Comme quoi, mettant en scène de théâtre ne fait pas grand-chose.
Ben c'est important de regarder ces comédiens.
Oui, oui.
Votre impression, là, sur ce qui se passait à l'époque, c'était septembre dernier, ça, évidemment.
Ben, c'était surtout le moment où on était quand même... Parce que là, on a l'air quand même très assuré à chaque fois quand on parle, mais on était pétrifiés de terreur, parce que c'est le problème, en fait, de ce genre de méthode de travail, l'écriture de plateau, c'est que vous travaillez, mais vous savez pas du tout quel spectacle va finir par advenir. Et je me souviens que la Générale, par exemple, on l'a annulée, parce que j'arrêtais pas de changer, en fait, à leur dire « Non, mais on va finalement pas faire parler de ce thème-là, on va remettre ce thème-là, etc. » Donc c'était comme un montage comme ça qui n'aurait pas été achevé. Et donc on était très tremblants. Enfin moi j'étais très tremblant à la première. Et j'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive, mais à la première Avidi, j'ai soufflé très vite en fait dans la salle. J'ai pu eu peur très vite parce que je me suis aperçu que j'avais choisi 6 comédiens d'une force et d'une solidité incroyable. Et que ils étaient prêts à affronter tout. Et c'est un des rares plaisirs parce que depuis septembre, ils sont en tournée et donc là, ils vont arriver à l'Odéon. Moi, je vais régulièrement les voir et souvent, en fait, vous avez toujours peur que ça se passe mal. Vous pouvez pas vous empêcher d'être tremblant dans la salle en tant que metteur en scène. Et avec eux, c'est bête à dire, mais j'ai pas peur, en fait. Quoi qu'il arrive, ils seront plus forts que le spectacle parce qu'ils dégagent sur scène une humanité,
une jeunesse aussi.
Oui, une jeunesse, c'était déjà le cas en fait dans Nouveau Roman. C'est-à-dire que cette méthode crée quand même des spectacles très particuliers qui s'adressent très directement au public. Et donc du coup, la question c'est pas tant de réussir à faire ce qu'on avait en tête et que tous les éléments soient maîtrisés, la lumière, le son, etc. C'est juste à un moment de faire en sorte qu'il y ait de la vie sur scène. Et ils sont tellement vivants, ces acteurs-là, que ça advient à chaque fois.
J'ai vu le spectacle il y a quelques semaines à Rennes, quand il est passé au Théâtre National de Bretagne, et j'ai vu à la fin des jeunes qui, a priori, ne connaissaient pas forcément Guibert, Lagarce et Bernard-Marie Coltès, pour ne citer qu'eux. J'ai vu ces jeunes debout, en train d'applaudir longuement. Est-ce que c'est quelque chose qui se répète ? Est-ce que vous avez l'habitude de voir des jeunes se lever à ce spectacle Les Idoles ?
Bon, à Rennes, c'est un peu ma ville aussi, vous voyez. Non, mais c'est vrai que c'est un spectacle qui provoque une réaction très chaleureuse de la part du public. Mais je crois que c'est parce qu'aussi des jeunes gens qui, justement, n'ont pas le plaisir de la référence, en fait. C'est-à-dire que je pense que le plaisir qu'ils ont à voir ce spectacle, c'est pas parce qu'ils connaissent, justement, un peu de Guibert et ils peuvent se dire « Ah tiens, c'est proche ou c'est pas proche, ils s'en sont éloignés ». Il y a un système de croyance qui s'établit dans ce spectacle et donc ils croient à Marina Foïs, Jean-Hervé Guibert. Et ça, c'est assez... c'est une chance parce que très honnêtement, au théâtre, ça peut se passer comme ça peut ne pas se passer. Et là, j'ai une équipe... vraiment de comédiens qui ont, Je sais pas ce qui s'est passé entre eux, en fait. Et puis, ils sont tellement drôles. Vraiment, ils passent leur temps à rire. On est sur une conversation WhatsApp et tous les jours, mais que ça joue ou que ça joue pas, je sais pas, par jour, il doit y avoir 50 messages échangés. On a dit qu'on allait finir par le publier parce que c'est tellement drôle.
Alors qu'ils jouent quelque chose de tragique.
Oui, mais je pense que justement, on a essayé tout à l'heure. Marlène, elle disait que c'était pas une messe, et c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de se dire ça, qu'on faisait pas un mausolée en fait ce spectacle. L'idée de ce spectacle, c'est l'inverse de ça. C'est justement de créer une émotion, parce que je crois que le spectacle est vraiment émouvant, mais jamais de manière solennelle.
Le Breton qui est en vous apprécie-t-il le Brestois mieux sec?
Énormément.
Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Les gens, entre parenthèses, quand ils sont les uns dans les autres. Voilà une des nouvelles chansons de Miossec. Colette Fellous est donc avec nous, éditrice, votre éditrice, l'éditrice du livre Ton Père. Il faut préciser que Ton Père fait partie de cette trilogie récente de Christophe Honoré. Il y a le film Plaire, aimer et courir vite, il y a ce livre et puis Les Idoles, on vient d'en parler à l'instant. Comment vous a-t-elle proposé, Colette Fellous, ce livre?
Colette, donc je me souviens, elle m'a contacté il y a quand même déjà pas mal d'années, en me parlant de sa collection, Traits et Portraits, en me disant, est-ce que ça vous dit pas, en fait, qu'on réfléchisse autour d'un livre, ensemble, l'idée, c'est de faire des autoportraits, et je me souviens très bien de la première conversation qu'on a eue, et où je lui ai dit, ah, je crois que si je devais faire mon autoportrait, ce serait un autoportrait en père, et notamment en père homosexuel, et c'était vraiment au moment, en fait, des lois autour du mariage gay et de toutes ces manifestations, enfin ces courants comme ça d'expression populaire dans la rue où énormément de gens étaient descendus dans la rue comme
ça. En 2013, oui.
Et donc, on a commencé à parler de ça. Et moi, je me souviens, quand je suis sorti quand même de ce café avec Colette, je me suis dit, la pauvre, je lui rendrai jamais ce livre en même temps parce que j'étais pris dans tellement de choses. Et Colette a cette force d'être tenace, patiente et de revenir régulièrement, mais très régulièrement, vous dire, n'oubliez pas, vous me devez un livre. Elle a cru en ce livre bien avant que moi j'y croie. Et si je lui ai demandé d'être là aujourd'hui, c'est que c'est aussi en réfléchissant sur le livre, sur ton père, que j'ai conçu justement cette idée d'une trilogie autour de la nécessité de reprendre la parole à la première personne en tant qu'artiste homosexuel.
Colette Fellows, quel Christophe Honoré, peut-être au pluriel, aviez-vous envie de rencontrer ?
J'aime bien quand Christophe Honoré dit que je suis patiente et que c'était il y a quelques années, parce qu'en fait, quand je demande un livre à un auteur, un artiste, c'est pas forcément des écrivains. Hein,
Il y a eu Christian Lacroix,
Denis Podalydès, beaucoup d'autres évidemment. Mais
Chantal Akerman.
Oui, Chantal Akerman aussi. C'est toujours quand c'est en tout cas pas directement des écrivains, quoique il faut un déclic. Et le déclic pour moi, ça a été quand j'ai vu Nouveau Roman. Hein. Quand j'ai vu cette pièce, je me suis dit, d'abord j'ai été très troublée parce qu'il y avait à la fois une réalité alors que c'était des acteurs qui jouaient,
qui
ressemblaient
Michel
pas
Butor,
du tout,
Claude
forcément,
Simon.
Voilà, Duras. Et je me souviens au tout début aussi quand il y avait le frère qui arrivait de Christophe, qui dit « Je suis le frère de Christophe Honoré ».
Julien Honoré.
Voilà, Julien. Et ça, je me suis dit, mais il a un culot et en même temps une vérité. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut que je lui demande un livre, parce qu'il faut que ça continue. Que ce qui se passe sur scène, pour lui, je suis sûre qu'il peut le faire aussi en livre, autrement. J'aimais la structure de la pièce, j'aimais la liberté, le côté joyeux et en même temps sérieux, grave. Et puis aussi le portrait de toute une génération littéraire que moi j'avais connue plus et que lui n'avait pas connue. Et on était pareil. Et donc là, quand je lui ai dit autoportrait, c'est vrai que autoportrait, c'est un terme qui peut faire croire qu'on va raconter sa vie ou qu'on va être directement autobiographique, mais non. Et après, c'est comment raconter, comment composer ce motif. Et Christophe avait beaucoup de choses à faire et se décourageait aussi parfois, je trouve. Et moi, j'aimais bien, je lui disais pas, mais j'aimais ce découragement, en fait. J'aimais qu'il n'écrive pas tout de suite, qu'il ait du mal à écrire.
Vous n'aviez pas peur ?
Ben, si, j'avais peur parce que je disais à Isabelle Gallimard, qui dirige le Mercure, moi je n'ai qu'une collection. Le livre va venir, mais je voyais les saisons passer et le livre n'arrivait pas, j'avais des comptes à rendre. Vous savez, tout à l'heure aussi, Christophe disait qu'il était incertain. Et en fait, moi j'ai été l'élève de Roland Barthes. Et Roland Barthes nous faisait justement l'éloge de cette incertitude qu'on n'est pas une seule personne, on est homme, on est femme, on est objet, on est plante, on est... Et justement, c'est une chance de savoir ça et de pouvoir assumer ça.
Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, je vous remercie de m'accueillir parmi vous. Je devrais certainement m'interroger sur les raisons qui ont pu incliner le Collège de France à recevoir, je dirais, un sujet incertain dans lequel chaque attribut est en quelque sorte immédiatement combattu par son contraire. Car si ma carrière a été universitaire, je n'ai pourtant pas les titres qui donnent ordinairement accès à cette carrière. C'est donc manifestement un sujet impur que vous accueillez parmi vous, dans une maison où règnent la science, le savoir, la rigueur et l'invention disciplinée.
Et dans le Collège de France, dans sa leçon inaugurale, il dit « Je suis incertain », c'est-à-dire qu'il ne se sentait pas du tout à la hauteur du Collège de France. Il dit « Vous m'avez nommé, mais vous savez, je suis très douteux, je suis pas... » Et c'est ça qui est très beau. Et Christophe, pour moi, c'est aussi un enfant de Barthes, de cette élégance comme ça, de la pensée qui peut tout ramasser. C'est un homme orchestre, en fait.
À la différence de Barthes, c'est que Christophe Honoré, comme vous, qui êtes aussi romancien, vous osez le « je, j'y, eux ».
Voilà.
Lui, il était plus le « il », la troisième personne.
Oui, oui, alors que Christophe a osé le « je », qu'il a un peu transformé, déplacé. Et quand j'ai reçu ce texte, au bout de plusieurs années, c'est vrai, ton père, je me souviens que j'étais à New York et que je le lisais sur mon téléphone portable, et j'étais complètement tremblante. Je voyais que ce texte était unique, qu'il y avait quelque chose, justement, de tremblant, de vrai, de joyeux, alors qu'il y a des choses graves. Il était composé d'une façon très bizarre, mais il fallait le laisser comme ça.
Il y a plein de choses, c'est un livre politique, hein,
un livre politique,
qui
voilà.
prend position sur le fait d'être homosexuel et
exactement,
père,
c'était la première fois que je voyais ça, et pour moi, c'était aussi dans la lignée d'Hervé Guibert, mais avec quelque chose de très contemporain, d'aujourd'hui.
En vous disant, Christophe Honoré, que le meilleur est peut-être à venir, que tout ça, ce sont des tentatives.
Mais j'ai l'impression quand même que mon endroit est plus la littérature que le cinéma. Et que je me suis un peu empêché d'écrire en réalisant des films.
Beaucoup de films.
Et un peu bêtement, en fait, je me suis dit, bon, tant que t'es à peu près en forme physiquement, il faut faire du cinéma, parce que c'est une activité qui demande quand même une endurance physique. Quand tu seras plus vieux, t'écriras tes livres. Et puis en même temps, c'est évidemment terrible de reporter comme ça, dans le lointain, les livres à écrire. Et cette opportunité, soudain, de me remettre à écrire, surtout de me remettre à publier, parce que j'écris toujours très régulièrement, mais j'avais pas publié depuis plus de 10 ans, ça m'a vraiment rassuré énormément, en fait, de publier ce livre. Et je sais que ça m'a porté énormément sur Plaire, sur le tournage, parce que le tournage de Plaire, c'est passé juste après, en fait, la publication. On corrigeait les épreuves avec Colette au moment où j'étais en train de préparer le tournage de Plaire, et je suis parti après faire Plaire, et j'étais vraiment nourri du livre. Et puis après, le livre est sorti, je me suis lancé dans Les Idoles. Et donc, pour moi, c'est tellement lié, ces trois œuvres, que j'ai l'impression d'avoir, pour la première fois, peut-être accompli un peu quelque chose. Et du coup, ça m'a redonné vraiment et le courage et le désir de me replonger plus sérieusement, on va dire, dans l'écriture.
C'est une façon de vous dire merci, ça, Colette Velouze.
Oui.
Oui, bah, ça, je la remercie régulièrement, en fait, Colette.
Vous pourrez nous lire un extrait du livre de Christophe Honoré, ton père?
Oui, je peux lire là, dans la page 179. Dans les rues de Rennes, je n'ai plus traîné les pieds depuis des années. Je ne saurais même pas où aller boire un verre. Le dernier bar que j'aimais ayant fermé depuis longtemps. J'ai 47 ans, et demain, je débuterai dans cette ville le tournage d'un nouveau film. Il se déroule à l'époque où ceux que j'avais choisis comme modèles pour ma vie, mes amours, mes idées, se rangèrent tous du côté de la mort. Je serais bien incapable de les faire revivre à travers les corps de mes comédiens. Il y a peu d'espoir que, fantômes, ils viennent réchauffer ma pellicule. Mais peut-être que le temps de certains plans, je pourrais réussir à croire qu'ils ne le sont qu'à quelques centaines de kilomètres de moi, ceux qui ont toujours séparé Rennes de Paris. Oui, voilà mon rêve pour ce film. Les deviner de nouveau à ma portée, comme lorsque j'avais 20 ans et que je m'étais secrètement juré de les rencontrer un jour et de m'en faire aimer. La production m'a installé dans une chambre d'hôtel qu'elle amenait. Les fenêtres donnent sur une station toute neuve de la ligne de métro. Là où il y avait les cinémas Gaumont, un parking a été construit. J'ai cru naïvement que Rennes aurait sauvé du passé ma jeunesse. J'ai pu m'apercevoir, lors des repérages pour ce film, qu'à l'image d'un dieu sournois, elle s'est plu à effacer mes traces dès que j'ai eu quitté les lieux.
J'aimais bien ce passage-là parce qu'il nous ramène vers le film dont on parlait tout à l'heure, vers votre Bretagne aussi, où vous avez eu du mal à revenir au début. Vous avez souhaité quitter la Bretagne pour Paris quand vous étiez tout jeune. Vous l'avez fait. Vous avez fait votre vie d'artiste à Paris. Mais progressivement, dans votre œuvre, parce qu'on peut parler d'une œuvre maintenant, vous vous êtes rapproché de votre lieu d'origine.
Oui, encore, je m'en suis rapproché d'un point de vue du territoire, mais pas d'un point de vue du milieu. Et je vois bien que j'ai du mal, par exemple, à construire des fictions, de films, depuis mon milieu social, en fait.
C'est une forme de pudeur ?
Oui, c'est être mal à l'aise avec ça. Moi, c'est vrai que quand j'étais cinéphile en Bretagne, je rêvais qu'une chose, c'était de fuir. Parce que le cinéma, pour moi, c'était Paris, que l'homosexualité, c'était Paris. Et puis, je m'ennuyais énormément, en fait, dans ce petit village breton, avec des parents artisans. Et j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je m'échappe, en tout cas, que rester là, c'était rater ma vie. Et donc après, c'est vrai que j'ai eu tendance, que ce soit au cinéma, alors peut-être un peu moins en littérature, mais au cinéma, en tout cas, je vois bien que les fictions, en fait, que j'écris, se passent jamais dans les milieux sociaux de ma famille, de mes grands-parents.
On vous a même taxé de bobo, de parisianiste.
Voilà. Et alors, je sais pas si c'est une question de pudeur. Si, je crois que je suis embarrassé par rapport à eux. J'ose pas, en fait, parce que je me sentirais... Déjà, peut-être parce que j'ai pas envie de m'en déposséder. Parce que malgré tout, je crois beaucoup à ça, qu'à partir du moment où vous filmez quelque chose, vous vous en dépossédez. Et je veux les garder pour moi, je veux pas les partager. Et je me sens obscène de mettre du cinéma là-dedans ou de mettre de la littérature là-dedans. Je sais pas si je suis très clair, en fait. Et... je crois qu'on peut parvenir au réel autrement que sur la représentation, on va dire.
Colette Fellou, je vais vous remercier d'être venue dans le grand atelier de Christophe Honoré. Je rappelle le titre de son livre par vous, si je puis dire, l'éditrice, c'est « Ton père au Mercure de France hein, » dans votre collection « Traits et portraits ». Puis je précise aussi que vous avez écrit un livre sur Camille Claudel qui a paru chez Fayard. Alors à bientôt. On chante souvent dans les films de Christophe Honoré, vous le savez bien, Colette Fellou. Alex Baupin a composé pas mal de chansons, de musique. Les acteurs aiment chanter dans les films d'Honoré. Je voudrais qu'on écoute un extrait des chansons d'amour. La chanson s'appelle La Bastille. Ils sont plusieurs à chanter. Ludivine Sagnier, Jean-Marie Winning, Alice Buteau et Chiara Mastroianni.
Il pleut des cordes sur le génie de la place de la Bastille. Nous marchons sous un ciel gris, percé par des milliers d'aiguilles. Il pleut des cordes sur le génie. Les nuages trop lourds s'abandonnent. De l'eau pour les gens de Paris, pour l'ange nu sur la colonne.
À l'horizon de nos fenêtres, plus rien ne bouge, plus rien ne vit. Comme Paris semble disparaître, dilué dans de l'eau de pluie. À l'horizon, le ciel défait, l'ange ruisselant se dessine. On voudrait s'aimer à jamais sous cette pluie que rien ne termine.
Ces dimanches de camomille, il pleut des cordes sur le génie. Qui aurait cru que si peu d'eau ferait fuir les gens de Paris, laissant l'ange trop seul et trop.
À l'horizon de nos fenêtres, plus rien ne bouge, plus rien ne vit. Comme Paris semble disparaître, délué dans de l'eau de pluie. À l'horizon, le ciel défait, l'ange ruisselant se dessine. On voudrait s'aimer à jamais, sous cette pluie que rien ne termine. Sur le génie de la place de la Bastille, nous nous couchons avant minuit dans des draps chauds qu'on éparpille. Il pleut toujours sur le génie, on sort des repas de famille. L'ange ruisselant dans la nuit déploie ses ailes sur la Bastille.
Christophe Honoré, on se retrouve juste après les infos ?
Tout à fait.
Christophe Honoré, il m'a imposé une tranquillité. C'est vrai que dans ses films, je ne suis pas dans le même rythme. Et c'est pas qu'à moi d'ailleurs. Souvent, il nous impose une espèce de quiétude. Et ce qui est un bon exercice parce que ça pousse radicalement les acteurs dans autre chose. Une autre façon de parler, une autre façon de se comporter physiquement. Il y a aussi beaucoup de poésie. La poésie, c'est pas évident au cinéma, je trouve. C'est casse-gueule. Et chez Christophe Honoré, ça, je trouve que ça marche. Ça tient debout, quoi.
Le Grand Atelier sur France Inter.
C'est la deuxième heure du grand atelier de Christophe Honoré, le cinéaste, l'écrivain, le metteur en scène. Alors on entendait à l'instant la voix d'un de vos acteurs.
Romain Duris.
Dans Paris, c'est Romain Duris. Il dit la poésie chez Honoré, il y en a beaucoup. En général, c'est casse-gueule, mais chez lui, ça marche. Vous sauriez définir cette poésie ou c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire ?
Alors, je peux pas faire, et puis surtout c'est très sympathique de la part de Romain de dire ça, mais je me sens pas à l'aise avec ce mot associé au cinéma et à mon travail. En fait.
Quand c'est Cocteau, quand c'est Demi, on parle de poète.
Demi comme Cocteau d'ailleurs sont dans l'invention de formes inédites, et donc c'est peut-être là où se joue la poésie. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans l'invention de formes inédites, et donc du coup je me sens beaucoup plus romancier parfois au cinéma. Ça peut m'arriver, mais c'est assez rare que je me lance dans un plan de cinéma en me disant tiens, ça va dégager une certaine poésie.
On va présenter les invités qui sont avec vous, vos invités, Christophe Honoré. Ben tiens, je vous laisse le faire.
Alors, on va d'abord commencer avec Laurence Rossignol.
Bonjour.
Bonjour.
Faut vous appeler Madame la Ministre encore ?
Non, hein ? Non. Appelez-moi Laurence Rossignol, ça sera très bien. Et puis dans un quart d'heure, on dira Laurence et ça ira encore mieux.
Alors, pour préciser l'ancienne fonction et la fonction actuelle de Laurence Rossignol, Christophe Honoré.
Ben, en fait, moi, je l'ai rencontré quand vous étiez ministre. On s'est croisé au Salon de Montreuil. Je me souviens du Salon du Livre Jeunesse. Vous étiez venu à l'inauguration. Et comme moi, je préside l'association qui organise le Salon du Livre de Jeunesse, j'étais là et je suis toujours très, très mal à l'aise, en fait, dans ce genre d'inauguration.
Vous étiez ministre du Droit des Femmes. Hein.
Droit des Femmes, Famille et Enfance. Et c'était au titre de ces deux autres portefeuilles que j'étais au Salon du Livre de Montreuil.
On commençait un peu à converser, mais d'une manière justement assez tranquille. Et moi, je connais très très peu en fait d'hommes ou de femmes politiques. Et on a eu l'occasion de se recroiser une fois au ministère. Et j'avais trouvé très agréable justement de prendre le temps de discuter un moment avec une femme politique et de discuter hors de tout sujet en fait.
Et bien, on va en parler voilà. Dans un instant de cette rencontre, première rencontre et puis deuxième rencontre. Aujourd'hui dans le grand atelier, il y a un homme avec des lunettes et une barbe également à côté de Laurence Rossignol.
Qui n'est pas un homme politique, quoique. Spécialiste de littérature contemporaine, Johan Farber, que moi j'ai rencontré pour le coup, parce qu'il a créé, en fait, je pense, la revue la plus intéressante aujourd'hui, qui s'appelle Diacritique, qui est une revue...
Sur le net,
voilà, culturel. Autour de la culture. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est croisé avec Johan. Et il publie aussi des essais, et notamment son dernier essai, dont j'avais très envie qu'on puisse en parler, qui s'appelle Après la littérature. En général, il a une publication à un rythme mensuel, cet homme.
Eh bien, bienvenue à tous les deux. Il y a au téléphone Arthur Teboul, qui est le chanteur et auteur du groupe Feu Chatterton. On va le retrouver dans un instant, mais on va d'abord écouter l'ivresse de Feu Chatterton.
Toutes mes pensées naissent. Après. Voilà du divorce. Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, mais où est-ce que t'iras? L'heure est avancée. Ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà. Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans la glace, dis-moi qui es-tu? Dis-lui. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, pars-toi. Et votre mon bout de, je fus comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur empesé. Cette nuit, oh, cette nuit-là où vous m'avez eu. Le rouge à ma honte s'y est beaucoup mieux. À mon verre de vin, couleur pour français. Tous les amirals, ça dégénère. Moi, faut pas cadencer. Entre mes doigts ruisselle une idée de vengeance. Ça te caresse démangeant mes paumes. Je serre les poings. Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans cet alcool d'agave, dis-moi qui es-tu, oh, dis-lui. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis raide. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis raide. Et ma hargne se dilue dans un océan de qui es-tu. Et ma hargne se dilue dans ce liquide. Toi que je vois, dis-moi qui es-tu. Rien de grave, doc, ce n'est que moi et mes turpitudes. Ça y est voilà, ça y est voilà. l'autre, nous vous deux, ce fut comme un baiser. Sur mes lèvres frileuses, mon cœur empesé. Le vôtre, mon goût de, ce fut comme un baiser. Sur mes lèvres frileuses et mon cœur empesé. Cette nuit, où vous m'avez eu. Cette nuit-là, où vous m'avez eu.
L'ivresse de Feu Chatterton, chanson parue sur le disque du groupe de rock français L'Oiseleur. Il paraît que c'est un de vos disques préférés de l'année dernière, Christophe Honoré.
En tout cas, je crois que c'est le disque que j'ai le plus écouté. En fait, je l'avais découvert avec leur titre Ginger, parce que j'avais d'abord découvert le clip qui m'avait vraiment impressionné. J'avais adoré le clip. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé à l'album. Et voilà, du coup, je suis ravi de pouvoir inviter Feu Chatterton à cet atelier.
On a le chanteur et auteur Arthur Teboul avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté.
Bah, je vous laisse entre les mains de Christophe Honoré.
Du coup, c'est toujours un peu... on ne sait pas comment dire aux gens qu'on aime bien ce qu'ils font. Non, notamment, en fait, c'est par rapport à l'écriture. Parce que je crois que c'est vraiment... C'est vous qui écrivez tous les textes.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, quand j'écoute vos chansons, en fait, je sens vraiment des chansons à la première personne. Et je me disais comment ça se passait quand on était chanteur au sein d'un groupe qui est en même temps un groupe aussi fort que Feu Chatterton.
Bah, c'est marrant parce qu'on est un groupe véritablement démocratique, ce qui rend la tâche extrêmement laborieuse, mais aussi très excitante. Les moments de joie collective sont d'autant plus intenses quand on trouve quelque chose, une étincelle comme ça, un moment qui nous touche tous. Et ça, c'est pour la musique. Et j'ai une certaine chance, c'est que pour le texte, avant de créer un album, je m'isole pendant un ou deux mois, j'ai vraiment l'impression qu'il m'envoie dans un bois en me disant « on a confiance ». Et en fait, j'ai cette chance, dans cette solitude, au moment d'écrire, d'avoir à l'esprit leur confiance. Je sais que pour ce qui est de la musique, tout est très largement débattu, et on casse les choses très souvent, on y revient. La chance que j'ai, en plus de leur confiance pour le texte, c'est que, comme on passe énormément de temps ensemble, sur la route, comme si on s'accordait comme ça mentalement, sans se dire les choses, quoi, comme s'il y avait une forme un peu télépathique, du simple fait de la proximité, on a beaucoup se ressembler. Et ce disque qui parle d'absence, de deuil, de rupture, en fait, étrangement, on a vécu ces choses-là au même moment, tous dans le groupe. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas ce moment solennel où on dit « voilà, j'ai les textes et je les envoie ». Déjà parce qu'en fait, les chansons, c'est jamais un texte entier, puis la musique. Mmh. J'arrive pas en me disant « ça y est, j'ai le texte, et là, faisons la chanson ». J'ai plein de carnets avec des bouts de texte.
C'est des motifs, en fait, que vous avez...
Ouais, des motifs, exactement. Et d'ailleurs, on passe énormément de temps, en fait, à essayer de provoquer une forme de transe. On passe, parfois, on est deux ou trois seulement, on travaille la nuit, avec un ou deux copains, et puis il y a une grille de clavier qui part et qui est intéressante. Parfois, c'est deux phrases avec une mélodie et les bons accords, et ça nous donne le début d'une chanson.
Est-ce qu'ils se permettent de vous dire « mais qu'est-ce que t'as voulu dire, là ?»
J'étais persuadé qu'entre le premier et le deuxième album, là, j'arrivais en disant « les gars, franchement, j'ai hyper épuré mon écriture, tout est beaucoup plus simple et net. » Et ils me regardaient un peu en faisant la grimace, en disant « bah, pas trop, quoi. » S'ils me disent un truc sur un bout de texte, je peux me braquer au départ.
C'est bien vous le tyran du groupe, en fait.
Bah, on est tous tyrans à un moment différent. Et quand il y en a un qui est usé, il y en a un autre qui prend la place, quoi.
Est-ce que vous avez dans l'idée autrement de partir un jour un peu plus longuement dans les bois et de pas ramener des chansons, mais de ramener plutôt un roman, un livre?
Bah, c'est une idée que je caresse de loin. Parce que moi, je me sens tout à fait incapable de faire ça. J'adorerais, en fait. Pour moi, c'est un héroïsme. J'admire plein de romanciers. Mais écrire un roman, ça me paraît être vraiment un Everest, quoi. La chance de la musique, c'est que quand on a fini le disque, on va le partager avec le public. Et on prolonge ce moment d'échange. Ça doit être terrible d'être écrivain, cette solitude toujours. On passe ses journées seul, et puis quand c'est fini, bah c'est fini. Voilà. Je me dis, mais écrivain, c'est héroïque. Quoi. Ça, c'est peut-être une thérapie pour voir que vraiment, on arrive à... Comment expliquer ça? On sait tous la vanité de cette vie, mais là, c'est quand même affronter cette immensité et ce vide... à un degré très élevé.
Vous êtes d'accord, Christophe Honoré?
Que ce soit héroïque, j'allais dire, c'est aussi très mesquin d'être écrivain. Enfin, vous voyez, c'est aussi une activité qui ressemble beaucoup à une activité solitaire adolescente, quoi. C'est une épreuve, mais c'est une épreuve qui est faite aussi d'une joie qu'on peut jamais ressentir, en fait, par ailleurs dans la vie. Donc, c'est pour ça que je pense que les écrivains sont très égoïstes aussi. Donc, c'est pour ça que je sais pas si c'est complètement des héros. Mais en tout cas, oui, voilà, il y a un rapport au temps et un rapport à l'enfermement, à la solitude. C'est même plus que la solitude, c'est vraiment cette idée à un moment du renoncement et que c'est aussi un temps où on est constamment confronté à sa faiblesse, au fait qu'on écrit mal, qu'on n'a pas d'idée, qu'on est mauvais. Et donc je crois que c'est surtout ça en fait, c'est un état de longue vulnérabilité. En même temps, j'ai l'impression en fait, si je vous parle de littérature, c'est pas tant parce que les textes effectivement c'est des textes de chansons, c'est plus... depuis l'endroit où vous écrivez. J'ai l'impression que vous écrivez quand même depuis un endroit de mémoire et que ce travail justement autour d'une mémoire qui est à la fois sur les références littéraires mais aussi d'une mémoire comment rendre compte en fait d'une mémoire par des mots, c'est ça qui fait littérature plus que les textes en eux-mêmes, vous voyez ce que je veux dire?
C'est intéressant parce que moi-même j'essayais de comprendre pourquoi à chaque fois on rattachait tant ce qu'on faisait à la littérature et c'est sans doute le point le plus juste plutôt que la syntaxe ou le choix des mots, une forme d'héritage. Non, c'est plus ça sans doute, cette manière de rendre une mémoire, c'est vrai.
Merci d'avoir été au téléphone avec Christophe Honoré et avec nous. Arthur Teboul, on vous souhaite un bon voyage et bon vol.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci encore.
Au revoir.
The Last Shadow Puppets.
Oui.
C'est quoi, c'est qui?
C'est le chanteur des Arctic Monkeys. J'adore vraiment ce qu'ils font en fait. Ils retravaillent beaucoup justement sur la citation. Ils font énormément de reprises de titres et c'est à peu près tout ce que l'Angleterre peut faire de mieux à mes yeux.
Ils ont repris un titre de Leonard Cohen.
Voilà, qui est une chanson qui me touche beaucoup. C'est une chanson de fantôme justement qui est très liée au travail que j'ai pu faire sur les idoles ou dans Plaire, aimer, courir vite et même à mon prochain film. J'ai l'impression que je pourrais écrire plein de films rien que sur ces deux lignes.
Le Grand Atelier sur France Inter.
You were the promise at dawn. I was the morning after. You were Jesus Christ, my Lord. I was the money lender. Sensuous woman, I was the very Reverend Freud. You were the manual orgasm. I was the dirty little boy. And is this what you wanted?
You wanted to.
Laurence Rossignol, il n'y a pas souvent des invités politiques dans le Grand Atelier. Je me souviens que Denis Podalydès avait invité Emmanuel Cos, qui a été ministre, bien sûr, et qui a présidé ACT UP, et il voulait parler du militantisme avec elle. Et puis, quand Christophe Honoré nous a fait part de ses choix, il a dit « Je voudrais l'ancienne ministre des droits des femmes, mais pas seulement des droits des femmes, hein, des familles et de l'enfance. » Et il m'a dit « Je l'aime bien et je voudrais parler du Parti Socialiste avec elle. »
Oui, en tout cas, je trouve ça important aujourd'hui où il y a... C'est toujours de bon ton, même pour les gens qui s'intéressent à la politique, de déconsidérer les hommes ou les femmes politiques. Alors que moi, pas du tout. Déjà, leur parcours m'intéresse énormément. Et puis, je me sens représenté par eux. Et je trouve ça bien aujourd'hui de dire qu'on peut se sentir représenté par eux. Et le Parti Socialiste a toujours été important pour moi, en fait, depuis que j'ai commencé à voter dans les années Mitterrand, que j'ai exigé beaucoup du Parti Socialiste, dans le sens où... Parfois, au moment de Jospin, je me souviens, etc., j'étais pas d'accord, et donc j'ai pu, même à certaines élections, voter plus à gauche que le Parti Socialiste pour réveiller le Parti Socialiste. Et en fait, avec Laurence Rossignol, on se connaît presque pas, en fait. Mais quand je l'entends, je sais pas, en tout cas, c'est un socialisme qui me touche et qui me semble me représenter. Et je crois que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Je vais le dire d'une manière absolument anecdotique, mais je sais que ma mère, elle me dit « Ah, maintenant, quand t'es cinéaste, quand même, t'es un homme public, fais attention à ce que tu dis à la radio, ou alors habille-toi bien. » Enfin, vous voyez, et je lui dis toujours « Mais non, je suis pas un homme public sous prétexte que je suis cinéaste. » Et bon, si elle a un peu raison malgré tout...
Votre mère a toujours raison.
Voilà, ma mère Les mères ont toujours raison.
Je me dis, bah, si je suis un peu un homme public, c'est important justement que quand on en a l'occasion de pouvoir inviter des acteurs, des essayistes, mais aussi, en fait, des hommes ou des femmes politiques, pour dire qu'on vit ensemble et qu'on réfléchit ensemble aux choses et qu'il n'y a pas de méfiance à avoir avec ça. Qu'au contraire, cette conversation-là, ce lien-là, il est très précieux aujourd'hui et je trouve qu'il faut le nourrir régulièrement.
C'est une parole rare, ça, Laurence Rossignol, aujourd'hui, de considérer un politique ou une politique.
Oui, j'écoute Christophe Honoré et en l'écoutant, je me dis, je sais pourquoi je l'aime. Je ne savais pas tout ça de lui, tout ce qu'il vient de nous livrer ici. Et j'aime son cinéma, j'aime son œuvre. Et j'attends toujours la suivante avec beaucoup d'impatience. Je ne vais pas fuir le sujet sur lequel vous voulez que je vienne, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce que la politique aujourd'hui, en fin de compte. Mais ce qu'il dit est en fait cohérent avec ce qu'il crée. Et en écoutant ce qu'il dit là, je me dis, en fait, je me suis pas trompée. J'ai aimé les films, et en aimant les films, je savais que je pourrais aimer l'homme qui les fait. Voilà, ça, c'était la première chose. Après, sur l'état dans lequel est le monde politique aujourd'hui, moi, je pense qu'on est dans une période extrêmement critique, extrêmement compliquée. On est une génération qui a vécu dans l'idée que la démocratie était un acquis, probablement irréversible. Et en fait, cette génération de gauche à laquelle j'appartiens était... assise sur un présupposé qui était que le monde ne pouvait qu'aller mieux. Tout ne pouvait aller que vers davantage de démocratie, davantage de partage, davantage de justice sociale. Les pays pauvres allaient devenir plus riches, les pays riches allaient devenir plus justes et la démocratie n'allait faire que progresser. Et on est à un moment où on se rend compte que non, la démocratie n'est pas une valeur assurée ni sur la planète, ni même en France. Et qu'il y a une forte remise en cause de la démocratie. Que la justice sociale, je ne sais pas si elle a régressé, mais en tous les cas, elle ne tient pas les promesses qu'on attendait d'elle. Et que d'ailleurs, les injustices sociales peuvent finir par remettre en cause la démocratie. Et donc, dans ce que dit Christophe Honoré, on est sur quel est le lien que le peuple entretient avec ses représentants et ses élus. Et dans la séquence dans laquelle on est, il y a quand même une question qui est posée, c'est qu'est-ce que le peuple ? Est-ce qu'il y a un peuple possible sans représentant ? Et moi, je crois que quand il n'y a pas de représentant, c'est pas le peuple. C'est soit la foule, soit les gens, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Mais la foule et les gens, à défaut de représentants, n'est pas une force motrice dans la démocratie. Et je dis ça parce que le fait de vouloir débattre avec des représentants du peuple dont je suis, nous raccroche tous collectivement à l'appartenance au peuple.
Christophe Honoré.
Oui, moi je crois beaucoup à ça. Alors on peut interroger les institutions, peut-être on peut se poser la question de nos constitutions, etc. Mais pour moi la démocratie c'est le vote, c'est vraiment le vote en fait. Et c'est tellement important cette idée du choix, du vote. Et la démocratie directe m'effraie en fait. Vous voyez, je vais ramener ça en fait à l'idée de l'homosexualité. Par exemple, quand j'écris un livre comme Ton père, donc moi je suis père homosexuel et je le dis dans le livre, je suis pas sûr que quand j'écris une phrase en disant moi père homosexuel, beaucoup d'homosexuels qui lisent ça se sentent représentés par moi au moment où je dis moi père homosexuel. Parce que en tant qu'écrivain, c'est pas ma fonction de représenter. Je représente personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux essayer de parler de l'autre, je peux essayer de parler à l'autre, mais en tout cas, je représente personne. Et je trouve qu'on oublie cette chose essentielle par rapport à nos hommes et nos femmes politiques, c'est qu'on a choisi qui nous représente. Après, alors, on peut trouver que des fois, on n'est pas d'accord avec eux, mais je veux dire, à partir du moment où je veux dire, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Et on a quand même des élections régulières, etc. Et de penser qu'on peut se passer de ses représentants. Et pour moi, une terreur absolue.
Vous avez pris les socialistes certainement un coup psychologique au moment de la présidentielle et de votre échec. On peut parler d'échec. Comment vous avez réagi? Quel a été votre sursaut à vous, Laurence Rossignol?
Comment dire? Face au coup, il y a toujours un sentiment double. Ma première réflexion, c'était de me dire à la fois c'est mérité et à la fois ça ne l'est pas. Je vois bien ce qui nous a conduit là, à cet échec. Et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, mais il y avait autre chose. Il y a autre chose dans ce que nous portons, il y a autre chose dans la continuité historique dans laquelle nous nous inscrivons.
C'est intéressant, je vous arrête là-dessus. C'était quoi votre échec?
L'échec du dernier quinquennat, celui-là. Parce que c'était pas notre premier quand même. On a vu 2002 avant, qui était déjà un sacré coup sur la tête... pas simplement des socialistes, mais...
Le Pen au deuxième tour.
Le Pen, voilà, les deux fois, en fait, où Le Pen est au deuxième tour. D'abord, quand on est socialiste, on se dit, comment est-il possible que les deux fois où l'extrême droite ait été au deuxième tour de la présidentielle, c'est les deux fois où nous gouvernions. Faut être assez aveugle pour pas noter ça. Donc, quelle est notre responsabilité dans le fait qu'on se retrouve avec l'extrême droite au deuxième tour? Pour moi, c'est un vrai sujet, premièrement. Deuxièmement, quand je dis c'est injuste, parce que ce que nous portons et que nous n'avons pas trahi pendant le quinquennat 2012-2017 est sanctionné par les urnes. Bon, on quitte le gouvernement, on a perdu, on s'en va, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça les élections, on s'en va. Mais ce qui est plus grave, c'est ce que nous incarnons qui est aussi battu dans ces élections-là et que personne ne reprend. Quand la gauche... de gouvernement perd une élection aussi brutalement, aussi sèchement qu'on a perdu celle-là, on va pas se dire, bah, d'autres vont reprendre le flambeau derrière nous, et c'est pas grave, on passe le témoin. On a le témoin à la main, on se retourne, et il y a personne à qui ne passer. C'est ça qui est très angoissant. Et je me dis toujours que ma faute est grande, notre faute est grande, parce que, en admettant même que nous, on mérite de perdre, les Français, le pays ne mérite pas que la gauche soit battue comme elle l'a été. C'est ça que je trouve injuste. C'est que le pays ne mérite pas que les valeurs de justice sociale, de solidarité, d'humanisme, de partage des richesses, de vivre ensemble, soient, elles, jetées avec nous. Et le Parti socialiste me paraît être encore aujourd'hui un outil utile dans les années qui viennent. Mais le Parti socialiste ne peut plus se penser tout seul. Il faut qu'il se pense dans la gauche. Tant que le Parti socialiste a pu jouer le rôle de pivot qui rassemblait tout le monde, la gauche arrivait à être forte. Maintenant, nous ne sommes plus en situation de faire ça, et je ne vois personne en situation de le faire. Et mon inquiétude est davantage une inquiétude sur la gauche, son avenir, que sur le Parti socialiste. Parce que si la gauche a un avenir, le courant que je représente trouvera sa place dedans.
Donc votre inquiétude, c'est l'incapacité pour l'instant de la gauche à se rassembler.
Oui, enfin, c'est l'incapacité de la gauche à proposer au pays et au peuple, parce que c'est pas un problème français ce qu'on vit. Moi, alors la limite de ma culpabilité en 2017, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs. François Hollande n'est pas responsable de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, ni non plus de celle de Bolsonaro au Brésil aujourd'hui. Partout où la gauche est en immense difficulté et est défaite, on n'en est pas tous coupables. Donc ma question, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce que sur cette planète qui va porter ce que nous avons porté. Et je ne vois que de la régression, et je suis effectivement très inquiète sur la manière dont le monde va affronter des défis nouveaux, plus les défis anciens. Il y a les anciens, la justice, le partage, et puis les nouveaux qui sont les défis écologiques. Et si c'est pas la gauche qui les porte, je sais pas qui va le faire, je vois personne le faire à notre place pour le moment.
Johan, est-ce que par rapport justement toi à cette idée de la représentativité des hommes et des femmes politiques, en fait, comme je sais que t'es aussi très engagé, très militant au sein de ton travail de professeur en lycée de banlieue, tout simplement.
Oui, c'est de banlieue, c'est le lycée Mozart du Blanc-Mesnil, et c'est vrai que sur la question de la représentativité, c'est un petit peu délicat parce que en fait, depuis quelques années, nous on est dans un lycée qui est dans une situation de détresse totale, qui est victime des politiques budgétaires, que ce soit de la région, aussi du rectorat, et c'est vrai que nous on vit des rentrées absolument catastrophiques ou épouvantables, où à chaque rentrée on est obligé en fait de se mettre en grève pour restaurer des conditions de travail qui devraient nous être données, et c'est des conditions très 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 dures.
Et ce depuis longtemps ?
Depuis que je suis arrivé dans ce lycée en 2005, régulièrement, on a des problèmes. Nous, on vit des problèmes, là, je vais être anecdotique, mais c'est pas du tout anecdotique. On n'a pas de chauffage. On a 30% d'élèves en plus depuis 5 ans. On a à peine la construction de préfabriqués pour les accueillir. Maintenant qu'on a les préfabriqués, nous, on refuse d'y aller parce qu'on n'a pas les surveillants pour surveiller les élèves. Donc, à des problèmes matériels s'ajoutent des problèmes humains. Les agents d'entretien qui doivent monter un escalier parce qu'il n'y a pas de point d'eau avec leur seau pour faire le ménage dans les préfabriqués. Il y a pas de toilettes pour 300, il y a 300 élèves en plus, il y a pas de toilettes supplémentaires.
Alors est-ce que comme Christophe Honoré, vous pouvez dire que les politiques ont du crédit à vos yeux aujourd'hui ?
C'est-à-dire que moi je crois toujours dans la politique, mais je ne crois pas du tout dans le discours managérial. Parce que le management gangrène tout, nous propose une publicité de tout sous la forme d'un outil conceptuel. Et c'est ça le problème qu'on vit actuellement.
On va continuer de parler ensemble. Laurence Rossignol, Johan Faerber, professeur de lettres, mais aussi critique et essayiste. Et Christophe Honoré, bien sûr, juste après avoir écouté Le Chouchou de Christophe Honoré.
Je sais pas qui est mon chouchou.
C'est Dao.
Ah bah oui, bien sûr, oui.
Le soir... Déplie ses voiles sombres, enveloppe l'étoile, les trottoirs et les bois, et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Fidèle égaré sur les pavés, au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux. Des perles silencieux, au fond de nous, l'étincelle, dans le calme orageux, cet éclair dangereux, des héros silencieux. Dans le calme orageux. éclairs dangereux. Héros silencieux. Au fond de nous, l'étincelle.
Je le disais, Johan Feuerberg, vous êtes spécialiste de littérature contemporaine, enseignant, vous êtes essayiste, auteur de « Après de la littérature » et vous avez fondé une revue culturelle avec d'autres sur le net, Dia Critique. Vous aviez envie de parler de littérature et peut-être du contemporain, des artistes d'aujourd'hui, des auteurs d'aujourd'hui, avec votre invité Christophe Honoré.
Oui, bah parce que Johan, il écrit un texte qui est quand même un texte très polémique, « Après la littérature », qui moi, évidemment, le fait très résonner sur justement des textes théoriques du cinéma, sur l'après-cinéma, ce que Danet a théorisé sur la mort du cinéma, Godard, etc. Et où je vois beaucoup de correspondances en fait avec cette après-littérature. Et puis après, ouais, j'aurais eu quelques questions à lui poser.
On vous écoute.
J'ai voulu prendre le... au pied de la lettre une rumeur qu'on entend comme ça depuis une vingtaine, une trentaine d'années.
Oui, il y a un moment.
Oui, il y a un moment, on dit la littérature est morte. Alors, vous avez des écrivains, souvent assez mauvais, qui viennent nous dire non, elle n'est pas morte, regardez, elle est en bonne santé, elle va très très bien, etc. Tout se passe très bien. Et puis, le fait est que ça va mal, ça va très très mal. C'est pas un peu comme le PS, mais
on est quand même... Pour moi, il y a vraiment un...
Il y a un lien.
On est dans une situation où, quel que soit le domaine où on exerce, la politique, cinéma, la littérature... Il y a comme une injonction à nous dire qu'on est dans l'après quelque chose.
Mmh. Et sous-entendu, c'était mieux avant?
Ah oui. Avec certainement cette idée de la nostalgie, oui, d'un temps politique bienveillant et heureux, d'un temps de cinéma bienveillant et heureux, etc. Et c'est vrai que ça semble être une caractéristique de notre époque, cette idée de l'après, en fait. Alors, est-ce que c'est qu'on résiste, en fait, à l'avènement du nouvel ère? Ou alors, c'est une fatigue, en fait, une usure du contemporain du XXe siècle qui ne parvient pas à terminer. En fait,
c'est ça votre lien. Vous dites, on peut dire que la littérature est morte, mais il y en a une nouvelle qui est en train d'émerger et il faut la considérer.
Oui, voilà, c'est exactement mon propos, mais il est un peu plus double que ça, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette idée, moi, je l'ai prise au sérieux, mais il y a des gens qui, par exemple, comme Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, qui manque d'intelligence critique et passe tout son temps à dire que, notre époque, elle n'est pas intéressante. Il faut faire une approche historique de la littérature, revenir au 19e et tuer le contemporain. C'est-à-dire que c'est comme si on vivait un trou de l'histoire. C'est comme si on n'avait pas la possibilité de vivre et comme si on nous retirait tout. Or, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on vit une époque absolument passionnante sur le plan littéraire, sur le plan cinématographique, sur le plan politique. Et cette époque, il faut l'aider. Il faut qu'on ait le courage de notre époque, c'est-à-dire il faut se donner les moyens de l'étudier, de l'appréhender. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, mais en prenant acte de l'idée que la littérature, effectivement, est morte. C'est-à-dire qu'il y a eu de très grands livres au XXe siècle, pour le dire vite, Faulkner, Proust, Duras, Beckett, Camus, et encore plus récemment, Michon ou Echenoz. Qui écrivent encore, et qui sont toujours vraiment formidables. Et tous ces écrivains, ils ont pu, à un moment donné, écrire des livres tellement parfaits qu'ils ont pu impuissanter ceux qui viennent à leur suite, c'est-à-dire les modèles sont trop écrasants de perfection et retirent à l'écriture sa possibilité de venir à elle-même. Mais peut-être, justement, il faut acter cette mort de la littérature et peut-être se dire que quand on écrit, on n'est pas devant une page blanche, mais c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, devant une page noire, c'est-à-dire noircie de référence, et qu'il s'agit de contourner, de prendre en charge pour quitter ce trou du présent.
C'est très poétique justement. D'ailleurs, Christophe Honoré, de dire qu'on sait qu'on a une page noire aujourd'hui tellement elle a de référence et il faut tendre vers la page blanche.
Oui, non, mais c'est vraiment une question, je trouve, qui est essentielle. Enfin, honnêtement, cet essai, il est passionnant. Moi, j'adore.
Merci.
Ce qu'il écrit et
il va pas plaire à tout le
monde. Je suis pas toujours d'accord avec lui, d'ailleurs. Par moment, il m'énerve et tout ça, mais. Moi, je me sens souvent en tant que cinéaste, par exemple, j'ai l'impression d'être face à une tombe. Et je me dis, je me tiens justement droit face à des morts et que je ne cesse d'essayer, en fait, de soit de les faire revivre, soit de leur parler.
Ah oui, les idoles, c'est ça.
Déjà d'en plaire, le petit clin d'œil sur la tombe de Truffaut.
Exactement. Et je crois qu'il faut qu'on admette aussi cette époque-là, en fait. C'est comme si on était tous en train de se promener dans un cimetière et qu'on prétendait qu'on se promenait en pleine nature. Et en tout cas, c'est ça que moi j'entends quand tu dis la page noire, en fait. C'est-à-dire à un moment que dans cette idée du deuil, il y a aussi quelque chose d'exaltant. Je crois beaucoup à cette idée qu'on peut en vouloir énormément aux morts pour parfois aussi leur dire qu'on n'est pas d'accord. Et dans les idoles, par moment, il y a quand même ça.
C'est-à-dire vous êtes gonflé dans les idoles.
La fiction permet ça. Mais je trouve que dans le réel aussi, en fait, aujourd'hui, il faut qu'on admette cette nécessité quand même de sortir du XXe siècle.
On va interroger la femme politique qui est avec nous, Laurence Rossignol. Vous entendez ce que disent à la fois les auteurs, professeurs et artistes?
J'entends, je réfléchis en même temps qu'il parle parce qu'il m'ouvre des voies de réflexion nouvelles et j'essaie justement de transposer. Je vois bien ce qu'ils veulent dire, ce côté, ceux d'avant nous nous pèsent, ceux d'avant nous sont exigeants. En fait, ça me fait penser un peu à ces enfants qui disent « je peux pas me construire parce que mon père ou ma mère sont des personnalités tellement puissantes que je suis pas arrivée à respirer à côté d'eux et à me construire ».
Je sais pas pourquoi je suis en train de penser à François Mitterrand vous concernant. Est-ce que c'est ça, cette statue au-dessus de vous, par exemple?
Non, j'étais remontée à Jaurès, moi, dans ma tête, oui. En vous écoutant.
D'accord.
J'étais remontée à Jaurès parce que...
Parce que c'est le XXe siècle, Jaurès, justement. Bah oui,
c'est le XXe siècle, Jaurès, c'est sûr. Et des fois, ça m'amuse, parce que dans les congrès du Parti Socialiste, il y a tout le temps un moment où on rend hommage à Jaurès. Je dis, ok, c'est bien de rendre hommage à Jaurès, mais c'est quand même un auteur dont l'utilité aujourd'hui est quand même moyenne, à part faire ce que nous sommes. Est-ce que je me fais comprendre à peu près?
Mais ça me fait penser à un vers de Victor Hugo qui est cité par Proust à la fin du Temps retrouvé. Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Et c'est vrai qu'il faut que les enfants meurent, c'est-à-dire il faut devenir autre chose, il faut accepter des déjeuners sur l'herbe, sur les tombes.
Laurence Rossignol?
Oui, effectivement, en politique, et alors surtout dans le courant socialiste, parce que le courant socialiste a un rapport à ses pairs, à ses auteurs, à ses grands penseurs, qui n'est pas le même qu'à droite. La droite n'a pas de grandes figures qu'elle révère comme nous le faisons. Et en vous écoutant, ce que je pensais, c'est que ceci existe déjà un peu chez les féministes.
Que vous êtes, hein?
Que je suis.
Depuis longtemps.
Oui, effectivement. Et chez les féministes, il y a un peu cette démarche-là de faire hériter les auteurs. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas pesantes. Simone de Beauvoir n'est pas une figure pesante pour les féministes. Elle est perpétuellement relue et modernisée d'un certain point de vue.
On va écouter Dominica. J'avais oublié que tu m'aimais autant.
Le lit était muet pourtant, à peine froissé les draps blancs, mais j'avais oublié que tu m'aimais autant. Pas de signe d'emportement, ni de regard au firmament, oui, j'avais oublié que tu m'aimais. Dans l'enclos ouvert à tout vent, j'avais laissé filer quelque chose d'évident. C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe des champs. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant. Oui, j'avais oublié.
Laurence Rossignol, Madame la Ministre, Madame la Sénatrice, vous connaissez parfaitement Christophe Honoré. Est-ce que vous avez vu, cela dit, des mises en scène d'opéra de notre romancier cinéaste?
Oui. Je suis allée à Aix voir Così fan tutte.
Ah, mais vous êtes fan, vous?
Ouais.
On va partir d'ailleurs à l'Opéra de Paris, car effectivement, vous mettez en scène de l'opéra aussi. Au départ, c'était il y a 5 ans, vous avez dit oui au patron de l'Opéra de Lyon, Christophe Honoré, pour le Dialogue des Carmélites de Poulenc, et puis ça s'est reproduit assez souvent, assez naturellement, j'ai envie d'employer cet adverbe. Et parmi vos idoles, Christophe Honoré, mais bien vivante, il y a un metteur en scène lyrique qui s'appelle Dmitri Tcherniakov, c'est un russe. Il est en train de préparer un opéra en ce moment à l'Opéra National de Paris. Pourquoi vous l'admirez?
Bah, Dmitri Tcherniakov, c'est le plus grand metteur en scène d'opéra d'aujourd'hui. Il a fait dernièrement à Garnier Yolanta, et vraiment c'est un spectacle essentiel, enfin pour moi, qui m'a énormément appris. Et là, en fait, il est en train de préparer Les Troyens de Berlioz. Et en fait, Serge Dorny, qui maintenant a été nommé directeur de l'Opéra de Munich, m'a proposé, je vais faire Les Troyens en 2022. Donc je suis très impatient de découvrir la mise en scène de Dimitri Tchernakov.
Jean-Baptiste Urbain s'est glissé à une répétition des Troyens pour en savoir un petit peu plus sur la méthode Tchernakov.
Michel Lauzier, je chante Ascagne dans Les Troyens, dans cette immense production mise en scène par M. Dimitri Tchernakov. Alors, on vient de commencer un projet immense et je ne sais pas quand sera la fin.
Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à d'autres metteurs en scène avec lui?
Au lieu de faire un gros plan de mettre en scène physiquement et en temps et en place les personnages, il décide tout de suite d'aller dans le détail psychologique des personnages. Du coup, on met effectivement beaucoup de temps à travailler chaque relation entre les personnages. Il rajoute aussi beaucoup d'éléments qui sont alentour de l'histoire et pas nécessairement dans l'histoire de l'opéra.
Bonjour Dimitri Tchernakov.
Bonjour.
Vous insistez toujours beaucoup sur la psychologie des personnages, dans des détails. Pourquoi?
Non, mais c'est difficile de répondre à la question. Pourquoi? Parce que c'est mon méthode, c'est comme je travaille, c'est comme je...
C'est ce côté du travail dans le théâtre qui m'intéresse le plus. Ce n'est pas le moment où je travaille avec les acteurs, mais c'est quand j'invente tout ça avant de commencer à travailler avec les gens. J'analyse et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui motive les gens d'agir de cette façon. Parce que souvent le texte qu'ils disent ne correspond pas à ce qu'ils pensent réellement.
Entendez-vous les hissements?
Entendez-vous l'écoulement?
L'écoulement de tout, qui n'ont.
Opéra, конечно, это продукт из театральной эстетики середины 19 века.
L'opéra, c'est le produit du milieu du 19e siècle, et là, on est déjà deux siècles plus tard. Donc il faut prendre en considération le goût du public, tout ce qu'il a pu voir pendant ce temps. Aujourd'hui, on n'est plus les mêmes. On ne peut pas faire la reconstruction de l'esthétique d'avant. Elle est morte.
Quand
le travail est très difficile, je me dis à moi-même, comme ce serait sympa de revenir dans le petit théâtre où il y a 5 comédiens et où tranquillement on peut travailler sans pression, sans tension. Et au moment où je reviens dans le théâtre parler, je me dis... Comme c'est sec, il me manque ce moment où on entend l'orchestre s'accorder avant le début du spectacle. Même le chœur qui parle tout le temps et qui me prend la tête pendant les répétitions, il finit par me manquer.
Ça y est, vous en savez un petit peu plus, et nous aussi, sur la fameuse méthode de Tchernakov. Ça va peut-être vous influencer pour votre mise en scène des Troyens à venir, Christophe Audrey.
En tout cas, sa mise en scène va être importante, parce que c'est ce que Dimitri Tchernakov expliquait. Vraiment, la question de la mise en scène à l'opéra, c'est une question de réflexion sur la mémoire des spectateurs, de ce qu'ils ont vu, en fait. C'est-à-dire que le spectateur d'opéra, enfin celui qui va très régulièrement à l'opéra, il est un peu comme un enfant le soir où vous lui proposez une nouvelle histoire, il dit oh non, l'histoire du lapin. Et il veut toujours la même histoire, racontée toujours de la même façon. Mmh. Et il est très addictif à ça en fait. Et dès que vous lui dites non mais on peut prendre un autre livre, ou on peut raconter l'histoire autrement, ça l'intéresse pas en fait. Et donc tout le travail en tant que metteur en scène à l'opéra, c'est d'essayer de se lancer dans une bataille avec ce spectateur pour lui dire non, essayons de raconter autrement cette histoire. Donc en général, ils vous détestent, les vrais spectateurs d'opéra, très profondément, ils détestent les metteurs en scène d'opéra, ils estiment qu'on détruit quelque chose et qu'il y a un patrimoine à l'opéra dont il ne faudrait que nous on défigure, alors qu'il suffit d'aller voir les spectacles de Dimitri Tchernakov pour voir justement combien il réinvente. Enfin, c'est même pas qu'il réinvente ses opéras, c'est qu'il les fait jouer depuis aujourd'hui. Et ce depuis aujourd'hui, en tout cas pour moi, ça rejoint beaucoup justement ce dont on a parlé sur l'essai
après la littérature,
c'est comment réussir à être depuis aujourd'hui.
Merci d'avoir été l'invité de Christophe Honoré. Merci. Florence Rossignol, on vous souhaite de remplir la page blanche hein, et pas de rester sur la page noire, si j'ai bien compris l'essai de Johann Feuerberg, essayiste, intellectuel et professeur de littérature. Après la littérature, apparu aux éditions PUF. Je rappelle le livre de Christophe Honoré, Ton père au Mercure de France, le film Plaire, aimer et courir vite. Oh ben, je vais citer une phrase que vous citez, c'est Schiller qui était cité par Nietzsche, tout le monde se cite, c'est « Les vivants ont raison ». Est-ce que ça vous va comme phrase pour nous quitter ?
Tout à fait, c'est un très bon manifeste en fait.
Merci Vincent Josse.